la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, comment maintenir la production de logements neufs à moyen et long terme? La question du moment à moins de 9 mois des échéances municipales. À trop vouloir économiser sur le logement, à trop compter sur un ajustement naturel. Le gouvernement prend le risque d'être non pas un pompier, mais un pyromane dans cette crise. L'an dernier, quelques semaines avant que la dissolution soit annoncée par le président de la République, la sénatrice LR des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone, avait annoncé la couleur dans un rapport d'information en compagnie de la socialiste des Hautes-Pyrénées, Viviane Artigalas, et la centriste du Pas-de-Calais, Amel Gacquer. Un an après, la présidente de la commission des affaires économiques de la Chambre haute n'en démord pas. Les mesures prises par la nouvelle ministre Létard sont de bonne volonté, mais elles restent encore insuffisantes. Et Bercy, avant tout, doit prendre en considération la problématique du logement en priorité, affirme-t-elle dans la salle des conférences. Selon elle, le vrai problème, pointé du doigt depuis des années, c'est l'incapacité de l'État de définir les besoins en logement sur le territoire. D'un côté, on cite le chiffre de 250 000 et les professionnels parlent entre 350 000 et 520 000. Et elle reste convaincue, après une intervention marquante au salon de l'immobilier d'entreprise à Paris, qu'il faut bien définir quel type de logement doit-on produire et qu'ils correspondent bien selon leur pouvoir d'achat à leurs usages et modes de vie. Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, à l'approche du futur projet de loi de finances 2026, la présidente de la commission des affaires économiques nous partage son analyse, ses convictions sur la relance du logement à moyen et long terme.
Alors, bien évidemment, la crise du logement n'est pas derrière nous. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la construction neuve, plus particulièrement, est en panne. Donc, il y a des choses qui ont été mise en œuvre par Madame la ministre Valérie Létard. Je pense en particulier au décret qui permet aux autorisations d'urbanisme qui ont été délivrées entre mai 2022 et mai 2024 d'être prorogées avec une durée de validité de 5 ans. Donc c'est de nature effectivement, dans la période de crise que nous connaissons, à faire en sorte que ces opérations qui bénéficient d'une autorisation de construction ne soient pas, si j'ose dire, plantées et que les 5 ans à venir puisse permettre aux opérations de redémarrer sans avoir toute la démarche et toute la procédure à mettre en œuvre. Donc ça, c'est une mesure concrète, pragmatique, de premier ordre, à court terme. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment demain, à moyen et en long terme, on arrive à relancer la construction. Il faut continuer à simplifier. Alors vous me direz, on parle beaucoup de simplification, mais on voit bien qu'aujourd'hui, délivrer une autorisation d'urbanisme, un permis de construire, c'est une véritable course en sac. Donc il faut continuer à tout mettre en œuvre, et ça, les promoteurs nous le disent, pour réduire les délais, pour réduire les recours qui continuent à être abusifs et pour paralléliser les démarches. Et puis je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui a été fait sur JO 2024. Il faut continuer à mettre en place plus de dérogations quand ces dérogations sont efficaces sur les territoires. Parce qu'on sait que ce qui plaide aussi pour continuer à construire, il faut réduire le temps. Et on voit bien que quand on a mis en place des délais de démarche, avec une deadline, avec une date de livraison imposée, avec un compte à rebours, le village olympique, par exemple, il est sorti de terre en 7 ans, ce qui aurait pris au moins 15 ans. Donc il faut continuer à gagner du temps. Et les dérogations sur des opérations d'envergure assez importante, il faut qu'elles puissent être généralisées. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi faire en sorte que les maires, s'ils veulent pouvoir continuer à bâtir, à délivrer des autorisations d'urbanisme, il faut qu'on leur simplifie la vie, il faut réduire le choc réglementaire, cesser d'empiler les normes, de rajouter le zéro artificialisation net à la RE 2020, le rajouter aux passoires thermiques qui sortent du marché locatif, parce que tout ça, ça renchérit les coûts de construction. Et dans une période où on doit tout faire pour réduire les dépenses publiques, forcément, ça amène à faire des choix et à faire des priorités. Voilà en tout cas les mesures qui peuvent être rapidement mises en place, en tout cas du moyen, et puis réfléchir peut-être à des mesures un peu disruptives. On voit bien que le foncier, c'est la base, le socle du démarrage de l'autorisation de construire, et qu'on a cruellement manqué dans notre pays, y compris sur les territoires, d'une véritable stratégie foncière. Alors on peut la mener à bien à travers les offices fonciers solidaires, mais nous préconisons, en tout cas moi je préconise, une mesure qui est peut-être un peu disruptive, mais qui s'entend dans les territoires tendus, c'est de mettre en place une déclaration d'utilité publique à la main des maires, des collectivités, avec pour seul but, mais vraiment pour seul but, de lutter contre la spéculation foncière.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour mettre en place une DUP ?
Eh bien, je pense qu'il faut en passer par la loi. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu un changement de paradigme. Il ne s'agit pas de permettre d'exproprier à tout craint, parce que nous sommes respectueux de la propriété et du droit de propriété. Mais je pense que dans des territoires tendus où le foncier est rare et cher et où l'on voit que du foncier soit peut faire l'objet de rétention foncière parce que les vendeurs potentiels se disent bah, « demain je vais trouver quelqu'un de plus offrant, donc pour l'instant je ne vends pas mon terrain », ou quand on voit que sur un même terrain il y a une surenchère des prix et qui va faire qu'on va donner raison aux plus offrants, eh bien ça porte préjudice à l'intérêt général et à la collectivité. C'est la raison pour laquelle dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on autoriserait une déclaration d'utilité publique avec le but de dire non, on ne peut pas lutter. Il faut qu'on lutte contre la spéculation foncière parce que c'est l'intérêt général, mais aussi l'intérêt de nos concitoyens qui doit être priorisé.
On jette souvent la pierre au maire. Qu'en pensez-vous sur votre circonscription à Nice ? Est-ce que vous avez des exemples précis où il y a des élus qui ne souhaitent pas, qui refusent ou parfois qui se disent non, pour le coup, c'est pas possible du tout.
Alors, ce n'est pas que dans ma circonscription ou dans mon département, même si effectivement le département des Alpes-Maritimes est un territoire particulièrement tendu où les besoins sont extrêmement importants. Mais on ne peut pas jeter la pierre aux maires à tout craint et de les faire eux responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'abord, il faut prendre en compte un contexte. Nous sommes à quelques mois d'élections municipales et même quand il n'y avait pas de crise du logement, c'est vrai qu'à l'approche d'élections municipales, eh bien, soit les projets ont été menés à leur terme, soit les maires ne vont pas lancer de nouveaux projets. De même qu'une fois élu ou réélu, il faudra un temps pour tout réorganiser et fatalement, jusqu'au mois d'octobre 2026, il y a peu de chances que des opérations repartent tout de suite. Mais il faut voir aussi que les maires, on leur a enlevé leur pouvoir d'agir, on leur a enlevé des moyens de pouvoir agir. Quand on a diminué leurs ressources à travers la suppression de la taxe d'habitation, mais plus encore, quand les maires construisent des logements sociaux, eh bien, les bailleurs sociaux bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut plus que les bailleurs sociaux bénéficient de cette exonération de TFPB. Mais ce que nous demandons, c'est qu'elle soit compensée. Alors, on a obtenu une compensation, mais qui n'est qu'une compensation temporaire et sur une durée limitée. Eh bien, si on veut aussi que les maires continuent à construire des logements sociaux, il faut aussi qu'ils puissent être assurés d'avoir la compensation totale de cette taxe foncière sur les propriétés bâties.
L'APL accession, c'est une mesure que vous aurez bien voulu voir ?
Ah oui, c'est une mesure que nous défendons au Sénat depuis plusieurs années, depuis qu'elle a été supprimée malheureusement dans un projet de loi de finances, dans une loi de finances, parce que nous considérons que c'est un outil qui est formidable pour les primo-accédants, qui de toute façon, s'ils n'ont pas cette aide à travers l'APL accession, ne peuvent pas demain se lancer dans un projet d'accession sociale à la propriété. Et permettre à ces familles, qui sont souvent les plus modestes, de pouvoir se lancer dans un projet d'accession, eh bien c'est ces familles qui sortiront du logement social et qui libéreront la place dans le logement social pour des personnes ou des familles, des ménages qui en ont le plus besoin. Et surtout, qu'on n'en ait pas à nous dire que c'est une mesure qui coûte cher à l'État, c'est une mesure qui, il y a encore 2-3 ans, représentait 50 millions d'euros. Mais il faut mettre ça en parallèle de ce que ça rapporte à l'État. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la politique du logement, elle a un coût. Grosso modo 38 milliards d'euros, mais elle rapporte à travers les recettes fiscales et sociales énormément à l'État, plus du double, près de 88 milliards d'euros. Donc si l'État et principalement Bercy veut continuer à faire des économies sur le dos de la politique du logement, je dirais qu'il se coupe un bras parce que c'est autant de recettes en moins et on l'a vu à travers la crise du logement, ne serait-ce qu'à travers les recettes de TVA par exemple.
Dernière question, qu'attendez-vous des arbitrages de Bercy? Êtes-vous inquiète pour le logement?
Oui, on ne peut être qu'inquiet pour le logement, parce qu'on voit bien que avant même qu'on demande de faire énormément de milliards d'euros d'économies, ce que nous ne contestons pas, Bercy a toujours, d'abord et avant tout, rogné sur la politique du logement à travers des décisions qui étaient prises de façon arbitraire. Mais j'ai confiance en la ministre, parce que nous avons enfin une ministre courageuse, une ministre qui se bat, une ministre qui connaît bien la question du logement, et je sais qu'elle mettra tout son poids dans la balance pour faire en sorte que la politique du logement ne soit pas encore la variable d'ajustement de Bercy, et nous l'y aiderons ici au Sénat.
À la une des quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.